plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Au-delà du réel, ce samedi dans Plan Large, avec Nicolas Philibert et Claudia von Alemann, et aussi Maxime Rappa et encore Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Le 46e Festival International du Film Documentaire, alias le cinéma du réel, s'est ouvert jeudi avec la projection en première française du film de Mati Diop, Dahomey, reparti de la dernière Berlinale avec un ours d'or qui consacre définitivement la place prépondérante qu'occupe aujourd'hui le documentaire dans la création cinématographique mondiale. Avant lui, un an auparavant, c'était déjà un documentaire français qui avait remporté le Plantigrade doré sur l'Adamant de Nicolas Philibert. Le deuxième volet du triptyque que le cinéaste a consacré à ses espaces de parole et de soins qu'est le pôle psychiatrique Paris-Centre est sorti ce mercredi, parallèlement à une rétrospective intégrale de ses films à la Cinémathèque française. Ça s'appelle Averroès et Rosa Parks, et presque un an après l'avoir reçu dans Plan Large pour le premier volet, nous n'avons pas résisté au plaisir de continuer notre discussion avec un des plus grands documentaristes français. Ce sera dans un instant. Nous avons aussi profité de cette édition du cinéma du réel pour partir à la rencontre d'une autre cinéaste très importante, Claudia von Alemann, à qui le festival rend hommage avec une rétrospective, pionnière du cinéma féministe en Allemagne, inventrice de formes qui font du cinéma une machine à penser, à combattre et à explorer l'intime et le temps. Vous l'entendrez tout à l'heure. Dans le journal du cinéma, le réalisateur suisse Maxime Rappa nous dévoilera comment un film fameux d'une autre grande cinéaste féministe, Chantal Akerman, a infusé son premier long, Laissez-moi, avec Jeanne Balibar. Et en fin d'émission, Charlotte Garçon nous partagera son ravissement devant la découverte de films inédits de Yasujiro Ozu. Et oui, il en reste encore. Mais pour l'heure, dans les locaux de l'hôpital Esquirol, ex-asile de Charenton, c'est le moment d'un premier entretien.
Vous savez ce que c'est, une grande psychiatre ?
Dites-moi.
Grand psychiatre, c'est docteur Jacob, c'est docteur de lettres. C'est pas parce que vous êtes là, hein. C'est docteur Césarifian, c'est des gens qui ont une synthèse, c'est des gens qui sentent les choses. Dans le football, il y a des buteurs, il y a des avant-centres, il y a des mecs qui marquent des buts. Il y a Mbappé. Mbappé, c'est un gars qui moi j'ai été élevé. Dans la vie, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a le flair. Un psychiatre, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est compliqué à expliquer.
Oui, mais vous, qu'est-ce qui fait que vous avez ce besoin, cet élan de dire ça aux gens sans forcément le penser ? Qu'est-ce qui motive ça chez vous ? Vous arrivez à le dire ou pas ?
Comment ?
Vous comprenez ce que je veux dire ?
Moi, j'ai pas entendu.
Bonjour Nicolas Philibert.
Bonjour.
À quel moment vous vous êtes dit, vous avez senti que il faudrait montrer le hors-champ de Sur l'Adamant ? Enfin, je sais pas si c'est le hors-champ ou en tout cas explorer d'autres espaces qui ne pouvaient pas être dans ce film, le premier film Sur l'Adamant, Nicolas Philibert.
Quand je tournais Sur l'Adamant, certains passagers, si j'ose dire, venaient d'une manière irrégulière et c'est des personnes qui étaient hospitalisées. J'ai eu envie d'aller leur rendre visite. Je les voyais assez peu, je les avais filmés, j'avais envie de les retrouver, de prendre des nouvelles, etc. Et j'ai commencé à aller à l'hôpital Esquirol, à Charenton. Je suis allé les voir, ça a été l'occasion de rencontrer d'autres patients, de rencontrer les équipes. Petit à petit, ces visites à l'hôpital se sont insidieusement transformées en repérage. Et j'ai commencé à me dire que je pourrais peut-être essayer d'élargir le cadre, de filmer, oui, le contre-champ de l'Adamant, filmer à l'hôpital, donc des personnes a priori plus fragiles, plus vulnérables, dans des situations plus difficiles. Et avec cette envie de montrer ce que je n'ai pas montré sur l'Adamant, c'est-à-dire ces entretiens. Il y en a pourtant sur l'Adamant, mais j'avais laissé ça de côté. Et j'ai eu envie de me concentrer cette fois sur les entretiens entre les patients et les psychiatres ou les psychologues, voire les assistantes sociales qui sont là. Au fond, pour montrer un autre aspect de cette même psychiatrie qui essaye, je dis bien, de rester humaine, de rester digne, qui essaye d'accorder la place qu'elle mérite à la parole, quand dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de secteurs psychiatriques, cette dimension-là est aujourd'hui très malmenée, si ce n'est écrasée. Faute de personnel, faute de moyens humains, faute de temps. Le management aujourd'hui a des effets dévastateurs sur la psychiatrie publique en France.
Vous le dites, filmer la parole, ça a toujours été votre grande affaire, mais selon les lieux où elle se produit, elle se filme différemment. Comment est-ce que le fait d'être dans un autre lieu, ce lieu spécifique, donc les ailes Averroès et Rosa Parks de l'hôpital Esquirol, hein, ancien asile de Charenton, vous l'avez dit, a précisément créé cette mise en scène qui n'est pas la même. Vous ne filmez pas pareil que sur l'Adamant.
Oui, parce que sur l'Adamant, je suis peut-être plus ostensiblement présent. On entend ma voix, quand on m'interpelle, je réponds. Bien des patients me racontent des choses. J'ai filmé souvent, d'ailleurs, seul. Certains jours, j'avais une équipe, mais bien souvent aussi, sur l'Adamant, je venais seul avec ma caméra et ça a été l'occasion de filmer des moments d'échange entre telle ou telle personne et moi. Tandis qu'en effet, dans ce deuxième volet, Averroès et Rosa Parks, je filme selon le dispositif classique de l'entretien en face à face, qui oppose ou qui rassemble un patient, une soignante ou inversement. Et donc, j'ai choisi de filmer ces moments-là très classiquement, en chant contre chant, pour donner toute la place qu'elle mérite à celui ou celle qui écoute, qui soutient le regard de l'autre, qui encourage, qui parfois interrompt, qui réoriente, qui aide tel ou tel patient à reformuler quelque chose. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup filmer la parole, parce que filmer la parole, c'est faire remonter dans l'image, rendre présent, très présent à l'image, tout ce qui est gommé quand on retranscrit la parole par écrit. Tout ce qui disparaît à ce moment-là, à savoir les gestes, les mimiques, les regards, les hésitations, les silences, le timbre des voix, les intonations, tout ça fait partie du langage, du sens. Et j'aime beaucoup filmer ça, en effet, oui.
Vous êtes plus rassuré d'avoir une chambre seule ou d'avoir une chambre double ?
Une chambre double. Comme ça, il y a un témoin.
Vous aimez mieux qu'il y ait quelqu'un avec vous, d'accord. Parce que là, en ce moment...
Il y a une mère marocaine.
Vous avez une voisine ?
J'ai une marocaine.
D'accord. Et ça va ? Ça se passe bien avec elle ? Oui. Ça vous rassure ? Eh bien, ça, c'est important qu'on le sache.
Les regards nous hypnotisent presque. Ce sont des regards parfois inquiets, parfois habités, parfois fiévreux, parfois terrifiés. Oui. Comment est-ce qu'on les filme, ces regards ?
On essaye de déjà, quand on filme en psychiatrie, je dirais on n'emmène pas large. On marche un peu sur des œufs. On essaye de pas être trop nocif, comme disait Jean Houry, le fondateur de Laborde, de la clinique de Laborde. Pour faire de la psychiatrie, quand on fait de la psychiatrie, il faut essayer de pas être trop nocif. Et quand on fait du cinéma documentaire, en psychiatrie ou ailleurs, il faut essayer de pas être trop nocif. Il faut essayer d'être soi-même attentif à des petits riens, à des petits gestes, à des regards. La caméra, quelquefois, elle encourage, elle fait naître, elle suscite des choses. Mais la caméra, elle peut aussi intimider. Et donc, est-ce qu'un patient va oser vous dire, attendez, là, ça serait bien peut-être de couper, d'arrêter. J'essaye, moi, de dire à celles et ceux que je filme qu'on a le droit de me faire un geste, on a le droit de me dire stop, on a le droit de me dire... S'il vous plaît, sortez, j'ai quelque chose à dire qui ne vous regarde pas. Mais tout ça, c'est fragile. Donc accueillir ces regards, c'est tout ça, c'est regarder les gens aussi, c'est échanger le regard. J'ai envie de dire que, puisque vous parlez de regard, que tout ça, ça nous regarde. Ces patients, cette souffrance, ces difficultés, ces troubles psychiques, ça nous regarde parce que déjà ça fait partie de notre humanité commune, que la psychiatrie c'est une loupe sur le monde, sur l'état de la société, que notre société maltraite très souvent et stigmatise les gens qui sont en psychiatrie, les déconsidère, qu'on ne sait pas pire que ça, que toutes ces personnes en souffrent, et que le fait de les filmer leur donne une forme de considération. J'ai été étonné de voir que très peu de personnes m'ont dit « Non, moi, je ne tiens pas à être filmé. » Il est vrai que je ne me suis pas adressé à celles ou ceux qui me semblaient peut-être trop délirants ou trop mal. Je me suis plutôt adressé à celles et ceux avec qui j'avais un lien, avec qui j'avais un échange. Mais très, très peu de gens ont refusé d'être filmés. Sachant que toutes ces personnes acceptaient de l'être en connaissance de cause. J'explique toujours que ce que c'est que ce film, c'est un film pour le cinéma, c'est un film qui ensuite sera sur les plateformes, en DVD, passera à la télé, etc. Donc si vous acceptez d'être filmé, vous allez en quelque sorte vous exposer. Ce que je dis là, ça vaut pour les patients, ça vaut pour les soignants aussi. Ça vaut pour moi aussi, d'une certaine manière. On s'expose tous quand on fait un film, quand on accepte d'apparaître dans un film.
Ça nous regarde, je ne sais pas si c'est le « ça » au sens psychanalytique. En tout cas, ça nous filme aussi, puisque toutes les personnes que vous filmez sont traversées par tout ce qu'on a traversé au moment où vous avez filmé, que ce soit le confinement, la crise de l'hôpital, la guerre en Ukraine, et toutes sortes d'angoisses en fait, qui nous assaillent. Et c'est vrai que, sans arrêt, on se dit « comment est-ce que moi, j'ai réagi ?» Il n'y a pas grand-chose quand même qui nous sépare, c'est juste les sentiments qu'on a ressentis de manière paroxystique, parfois, mais c'est nous tous que vous filmez.
Mais oui, bien sûr, mais c'est toutes ces peurs, ces angoisses que j'ai saisies, qu'on entend dans le film, qui s'expriment, ce sont les nôtres, et comme vous dites, elles sont un peu exacerbées chez ces personnes à ce moment-là, mais nous les partageons, ce sont les mêmes. Le monde dans lequel on est très anxiogène, pour mille raisons. Et c'est ce qui fait que je pense qu'on ne voit pas ces personnes-là comme les autres. Ce sont nous. Ce sont en même temps des autres et nous-mêmes. Ce sont des gens qui, peut-être, n'ont pas, comme on peut le faire nous, la même capacité à inventer des stratégies de protection. Nous, on sait bien détourner le regard quand il y a quelque chose qui nous fragilise ou qui nous fait trop peur. À l'inverse, bien des patients en psychiatrie donnent le sentiment d'être très poreux, de ne pas pouvoir se défendre comme on le fait, et du coup de prendre la violence des choses de pleine face, de plein fouet.
Moi, chaque cours, c'est comme si je mettais ma vie en jeu.
Mais oui.
Je me dis, je vais essayer de faire le meilleur cours de ma vie et de vous transmettre qu'est-ce que l'art, mais pourquoi l'homme, depuis la nuit des temps, fait de l'art dans les grottes de Lascaux. Et j'essaie de... Je prépare jamais un cours normal. Et qu'est-ce que le travail? Pourquoi l'homme travaille-t-il? Qu'est-ce que... Je me lance dans ces machins, alors qu'il y a des profs, ils arrivent à faire... Bon, ben, petit 1, le bonheur selon Aristote. Petit 2, le bonheur selon Platon. Ouais. Petit 3, le bonheur selon Kant. Voilà, ta-ta-ta. Pour moi, c'est de la merde, c'est pas de la philo, ça.
Et vous, idéalement, qu'est-ce que...
Oui. Idéalement, alors je vais vous dire, ben là, je suis content qu'on pose la question. Idéalement, je veux refonder le système éducatif européen et mondial.
On pourrait penser que votre film est très monotone dans la façon de filmer les entretiens selon un dispositif qui ne bougerait pas. Vos caméras sont installées, c'est presque les gens qui défilent devant. Aucune séquence n'est identique à l'autre. Il y a des champs contre champs où on ne voit que les personnes qui parlent. Parfois, il y a cette autre figure du champ contre champ qui est l'amorce d'épaule, ou parfois c'est juste une main qui vient. Comment est-ce que vous avez pensé ces cadres différents? Est-ce que ça dépendait des personnes que vous filmiez à chaque fois?
Ça dépendait moins des personnes que je filmais. et peut-être davantage des lieux, parce que tous ces entretiens sont dans des lieux différents. Il fallait parfois vraiment... un psychiatre nous disait parfois au dernier moment, ça y est, j'ai un moment pour vous, on peut faire cet entretien, etc. Donc on cherchait un endroit, on avait très peu de temps pour s'installer, et je dirais, j'ai fait au mieux, au plus pressé, j'ai fait un peu comme j'ai pu. J'aime ça, au fond. J'aime bien devoir être un peu ballotté par les événements. C'est ça qui est beau quand on fait comme je fais un cinéma documentaire. On doit s'adapter, on doit faire avec. Les choses ne sont pas trop préparées. Et je dirais, tant mieux, parce que si je devais faire un cinéma trop écrit, trop programmé, je m'ennuierais épouvantablement. Je ferais peut-être autre chose, j'arrêterais. Le fait d'être un peu à la merci du réel vous bouscule. Et alors en psychiatrie, on est particulièrement bousculé, ballotté. Les personnes qu'on rencontre vous déroutent souvent. C'est bien, ça force à penser, ça donne à penser, ça vous amène à être sur le qui-vive, à être au comble de vous-même. Il faut être à la hauteur. Parce que les patients en psychiatrie, c'est des gens, j'ai envie de dire, on la leur fait pas. Hein. C'est des gens qui mettent la barre très haut. Ce sont des personnes qui donnent l'impression d'être tout le temps en quête de sens. Qui ne se contentent pas de réponses toutes faites. C'est pourquoi j'ai peut-être eu envie de retourner en psychiatrie. Au départ, il s'agissait d'un film sur la dame. J'ai eu envie de continuer. Il y aura bientôt un troisième volet dans lequel j'accompagne des soignants de la Damon qui rendent visite à certains patients chez eux.
Qui bricolent et qui réparent.
Voilà, c'est des soignants, bricoleurs, qui savent faire un peu d'électricité, un peu de plomberie, que sais-je, et qui se rendent chez des patients quand l'un d'eux se trouve confronté à un problème domestique, quelque chose qui est cassé, un objet qui marche plus, etc. Voilà, donc il y aura un troisième rebond, si je puis dire.
Et aussi une troisième sorte d'espace, puisque là encore, dans des espaces encore plus contraints parfois, vous serez amené à filmer autrement. Mais voilà, on en reparlera peut-être quand le film sortira. Vous avez dit il faut prendre de la hauteur, et votre film commence par un plan, je crois que je n'avais jamais vu chez vous, qui est un plan de drone, un plan en hauteur qui filme l'espace général dans lequel se situe votre film. Mais à peine a-t-on le temps de s'étonner de ce plan, que le plan est montré comme un plan, commenté par les soignants et les malades. Pourquoi est-ce que vous avez voulu commencer ce film comme ça ?
Et oui, c'est pas mon truc de faire des plans drones, c'est-à-dire de regarder le monde de haut. Moi qui ai toujours été le plus petit à l'école et qui filme tant que je peux à hauteur d'humain. Mais justement, je déjoue un peu la chose. Sitôt ce premier plan de drone terminé, qu'on comprend que il est commenté par patients et soignants qui essayent de se repérer. Ben, j'avais envie de montrer, au fond, l'étendue de cet hôpital Esquirol, son architecture, qui est faite de carrés autour de patios, comme ça, c'est très géométrique. Ça évoque des lieux d'enfermement, ça évoque une certaine architecture qu'on retrouve souvent en psychiatrie. Parce qu'après, on va être proche des uns et des autres. Et il me semblait essentiel de dire où on est. Les lieux sont tellement importants pour tout un chacun. La beauté d'un lieu, la froideur d'un espace, que sais-je, ça compte beaucoup. Sur l'Adamant, quand je tournais, j'avais le sentiment que ce lieu même avait une certaine dimension thérapeutique. La proximité de l'eau, la beauté des matériaux, le bois, ces grandes baies vitrées, la lumière, la circulation à l'intérieur du bateau. Tout un chacun peut circuler partout, il n'y a pas de pièce qui ferme, il n'y a pas de lieu interdit. Ça compte énormément, bien sûr. Et c'était une façon d'entrer dans ce film. On est d'abord un peu en hauteur, mais on va très vite se poser.
Merci beaucoup, Nicolas Philibert.
Merci à vous.
Sous quelle étoile suis-je né ? J'en suis encore me le demander. Je chercherai peut-être encore lorsque sonnera l'heure de ma mort.
Averroès et Rosa Parks de Nicolas Philibert est en salle depuis mercredi. Le dernier volet du triptyque La machine à écrire et autres tracas sortira lui le 17 avril et vous pourrez le découvrir en avant-première si vous êtes à Paris le 15 avril au Majestic Bastille dans le cadre de nos séances France Culture. Quant à la rétrospective Nicolas Philibert à la Cinémathèque française, c'est jusqu'au 8 avril. Vous écoutez France Culture, Plan Large, et c'est à une autre rétrospective que nous nous intéressons à présent, celle que le Festival Cinéma du Réel consacre à une autre grande figure du documentaire, mais pas seulement, la cinéaste allemande Claudia von Alemann, méconnue en France alors qu'elle est l'autrice du premier grand film consacré aux événements de mai 68 et à leur suite, aux états généraux du cinéma et aux films de contre-information. Ça s'appelait « Ce n'est qu'un début, continuons le combat ». C'est aussi avec sa consoeur Elke Zander, la créatrice du tout premier Festival international du film de femmes à Berlin en 1973, 6 ans donc avant celui de Créteil, l'inventrice enfin de nouvelles formes pour parler des luttes féministes, reliant celles des années 70-80 aux premières penseuses de l'émancipation des femmes au 19e siècle, à l'instar de ce grand film d'errance urbaine qu'est Le Voyage à Lyon en 1981, un film qui préfigure aussi bien Toute une nuit de Chantal Akerman que Dans la ville blanche d'Alain Tanner. On lui doit aussi enfin, après la chute du mur de Berlin, 4 documentaires essais passionnants et très émouvants qui l'ont fait retourner en Thuringe, en ex-RDA, dans le petit village où elle est née pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une famille aristocrate acquise au nazisme et qui avait fui à l'ouest en 1949. Avant d'aborder avec Claudia von Alemann sa riche et longue carrière, petit extrait de son film sur mai 68 où les cinéastes Jean-Henri Roger, tout jeune, et Jean-Luc Godard, déjà très JLG, expliquent à la toute jeune cinéaste allemande les vertus d'un tout nouvel outil, la vidéo.
Les gens qui ont une pratique militante, qui font les films sur magnétoscope. Et comme ça ne pose pas de problèmes techniques, c'est vraiment très facile.
Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est arriver à donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais eue. Et qui peuvent la prendre, parce que c'est facile à prendre, justement.
Et qui ne sont pas les cinéastes, pas les spécialistes.
C'est ça, alors eux parlant, on connaîtra une nouvelle parole avec eux à ce moment-là.
Peut-être qu'on pourra faire du cinéma à ce moment-là. Voilà.
Il n'y a pas une des choses à plus faire, c'est des interviews, par exemple. Ouais. On est tellement influencé, on n'a pas idée de parler aux gens d'une autre façon, et même les gens n'ont même pas l'idée de répondre autrement. Ça, c'est une idée qui vient de Platon, l'interview de Socrate et de Platon, qui est justement une idée esthétique de classe ou je ne sais pas quoi, mais qui est complètement faux, ce qui fait que les gens n'osent plus parler et ne parlent pas leur parole à eux et ne parlent pas la parole de l'autre. Mmh. Et alors on parle une espèce de parole qui n'est rien. Là, ce qu'on dit en ce moment n'est rien.
Ouais. Bonjour Claudia von Alemann.
Bonjour.
Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a fait qu'une jeune étudiante en art et en sociologie à l'université de Berlin se tourne vers le cinéma et va à Ulm suivre les cours d'Alexander Kluge et d'Edgar Wright? Est-ce que le cinéma vous intéressait depuis longtemps?
Oui, mais je ne viens pas du tout du cinéma, je viens de la danse, du ballet et du jazz dance et de la pantomime. J'ai appris à être mime dans le style Marcel Marceau, dans l'opéra de Cologne, qui était une opéra d'avant-garde à l'époque, on était un groupe de mimes. Je ne connaissais pas du tout le cinéma, mais en étudiant le sujet très sèche, sociologie, qu'étudiaient tous les gens de la gauche et l'histoire de l'art, j'ai décidé que je dois faire quelque chose avec mes mains, pas seulement avec ma tête, mais que je dois faire quelque chose qui a à voir avec tout, la musique, l'image, les acteurs, les actrices, et techniquement et aussi artistiquement.
Il faut préciser, Claudia von Alemann, que si vous parlez si bien le français, c'est que vous avez passé beaucoup de temps en France, et notamment, vous y êtes en mai 68, vous êtes avec Agnès Varda, je crois la seule cinéaste à participer aux états généraux du cinéma. Qu'est-ce qui s'est joué pour vous à ce moment-là, qui a certainement beaucoup influencé ce que vous avez fait ensuite?
Alors, je suis allée avec 2 autres amis qui étaient des étudiants de l'art graphique à Ulm, et on est venu seulement avec une très vieille Volkswagen pour regarder ce qui se passait, parce qu'on avait déjà fondé un groupe SDS, et le SDS c'était le mouvement des étudiants socialistes, Sozialistischer Deutscher Studentenbund, en Allemagne de l'Ouest, bien sûr. Et nous étions très engagés politiquement, et les 2 amis et moi ont fait cette aventure d'aller pour 3 jours à Paris. Et après 3 jours, dans un hôtel horrible, une espèce de bordel pour payer par heure, on n'avait pas d'argent. Et les 2 autres sont rentrés à l'école. J'ai décidé de rester sans argent. Et j'ai même tourné avec 2 amis des différentes voix, des jeunes, des vieux, du Parti communiste, de aucun parti, de la droite à la gauche. On tourne différentes professions. On avait une stewardess de Air France, on avait trouvé, bon, une mélange de personnes, en leur demandant tout court pourquoi vous avez rejoint le mouvement 68. Bah, c'était une conception très jeune, très aventurier, quoi. Mais on a tourné, mais plus tard, le film ne s'est jamais monté vraiment et le film n'était jamais fini. Alors j'ai été très impressionnée par les états généraux parce qu'il y avait 1000 personnes ou 2000 à Suresnes. Il y avait la conception de 13 metteurs en scène, toujours hommes, et des groupes de travail. Et moi, bien sûr, je suis allée dans le groupe de travail de Claude Chabrol, en ne disant rien, parce que je n'osais pas parler, parce que j'étais très timide et je ne parlais pas très bien le français. Mais Claude Chabrol avait un concept, il avait écrit un papier, un très long papier, qui disait « Chaque Français et Française doit être forcé d'aller une fois par mois au cinéma. » Et qu'on leur paye cela. Et j'ai trouvé ça si anarchisant, comme c'était ma tendance à moi aussi, que j'étais dans ce groupe de travail. Bon, il y a des sujets libres qui m'ont fascinée, mais bientôt ça s'est dissous dans des querelles épouvantables. Et puis, il y avait un tout petit groupe après, en automne, qui disait Conseil permanent des États généraux. Et c'était 20 personnes seulement. Donc, Marceline Louridan, Kébadian, Marine Karmitz, d'autres très connus aujourd'hui, mais pas connus à l'époque, sauf Marceline. On distribuait les films, on faisait de la distribution. Donc, dans mon film, la seule femme qui parle, malheureusement, la seule femme, c'est Dominique Ranche, qui est toujours une copine à moi et qui raconte ce qu'elle a fait pendant la distribution. Et je trouvais ça fascinant. Et j'ai aimé ça, de participer à cela. Et j'ai tourné le film. Je connaissais un rédacteur à la télévision de Cologne, la célèbre WDR. Et eux, ils avaient une rédaction qui n'existe plus depuis longtemps, qui s'appelait Film Redaktion. Et là, ils faisaient des films avec le rédacteur Reinhold Ethiel, et lui, il était rédacteur permanent. Il m'a dit, bon, fais quelque chose à Paris. J'ai dit, ok, je vais faire une chose que, comme le film peut servir comme arme politique, et aussi, pas seulement des hautes célébrités, Roger Vadim, Claude Chabrol et tout ça, des états généraux, mais aussi de la base. Alors, je veux parler avec les ouvriers Citroën et ouvrières et leur demander pourquoi ils veulent regarder des films. Reinhold, il a dit oui, je suis d'accord. Il m'a donné 30 000 Deutsche Mark et je pouvais faire en tant que productrice indépendante ce que je voulais. J'ai engagé quelques jeunes gens, payés bien sûr, qui faisaient le son et la caméra. Et on a tourné les états généraux, mais très peu parce qu'ils étaient déjà presque inexistants. Novembre-décembre 68, et les jeunes ouvriers, ouvrières aussi, mais qui ne disaient rien, les jeunes ouvriers de Citroën et d'autres, Dominique Range et d'autres personnes. J'avais une chance incroyable, à l'époque c'était comme ça.
Au cinéma Arsenal à Berlin, justement, vous avez créé, avec une amie, Elke Zander, le premier festival international du film de femmes, bien avant Créteil. Vous avez été, et vous êtes encore une des grandes cinéastes féministes allemandes. Je suis très curieux de comment vous regardez la place qu'ont prise les femmes depuis dans le cinéma en Allemagne et dans le monde, et comment vous voyez les débats qu'il y a actuellement sur la place des femmes au cinéma.
Oui, c'est une très grande question. Oui, on avait fait ça en novembre 73, Helke Zander et moi, qui étaient déjà et qui sont toujours des très proches amis. Et c'était un an exactement avant Musidora et bien des années avant Créteil, à Berlin-Ouest, dans l'Arsenal. Et après, on a montré pendant 4 jours plus que 40 films. Surtout des films documentaires, et le seul objectif était que les films devaient être faits par une femme, ou plusieurs femmes, Et il fallait s'agir d'un sujet sur les femmes généralement, surtout sexualité, avortement, amour, travail ménager, travail dans l'usine et tout cela. Ou des femmes de loin, des femmes inuites, des femmes d'autres pays. Et on disait déjà, ce qui était inconnu en Allemagne, on disait depuis 70 à peu près ou 69, nous sommes féministes, ce qui était un terme inconnu dans le langage politique à l'époque, tandis qu'à partir de 1832, les femmes françaises se sont nommées « Nous sommes des féministes », en fondant le premier journal des femmes qui s'appelait « La femme libre » ou « Tribune des femmes ». Et déjà là, le mot « féministe » apparaît, mais pas en Allemagne.
Avec notamment la figure de Flora Tristan, à qui vous consacrerez un film magnifique tourné à Lyon, « Le voyage à Lyon », avec cette très belle idée de capter par un magnétophone les sons de 150 ans auparavant, comme s'il y avait un écho de ces sons et donc de ces luttes qui étaient encore là au moment où vous tournez le film au début des années 80.
Oui, d'abord j'avais voulu faire un film très cher, enfin pour moi très cher, de 1,5 million de Deutsche Mark. Et j'avais une coproduction française qui était Michel Reygavras. Et Michel Reygavras qui avait été un modèle. Et après, une reporter de la guerre au Vietnam, et elle était la femme de Costa Gavras, et elle avait deux très petits enfants qui font du cinéma, bien sûr, maintenant. Et alors, elle voulait faire la coproduction. J'avais des stars, de Marguerite von Trotta, qui était toujours actrice, Marie-France Pisier aurait dû jouer Flora Tristan. Et la seconde chaîne, qui donnait la moitié de l'argent. Mais c'était l'hiver 77. L'hiver 77 était l'hiver du groupe de RAF, du groupe d'Andreas Bader, Gudrun Meinhof, etc., Ulrike Meinhof. Et c'était un hiver politiquement absolument horrible, de la violence, de l'assassinat, de la police partout. Et ce sujet, même qu'il s'agissait de 1844 et 1840, ne plaisait plus à la télévision. Et on m'a plus donné de l'argent, la moitié. Alors Michel Reygavras, bien sûr, ne pouvait pas le faire seul. J'étais triste, j'étais déprimée comme tout. Je voulais me suicider. Je pensais, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ce film. Alors j'ai trouvé ça totalement imbécile de penser au suicide. Et j'ai pensé, mais je suis totalement idiote. Je vais faire le film quand même, mais avec l'idée fixe, pas sur Flora Tristan, mais avec l'idée fixe d'une jeune historienne qui quitte son travail, ses archives, son mari, son enfant, et qui, comme dans le cinéma de Franco Nero, il était une fois dans l'Ouest, j'avais dans ma tête les films de Sergio Leone, que j'adore le cinéma comme ça, et je voulais une femme, une jeune femme qui apparaît dans une guerre déserte, ce qui était Lyon-Brotto déjà, totalement déserte. On n'a pas chassé les gens, mais c'était totalement déserte. Et on a développé une histoire d'une jeune femme qui arrive et sans but, on ne connaît pas son but. Et on ne sait pas ce qu'elle veut faire. Et alors, qui erre dans la ville de Lyon et cherche Flora Tristan, mais en vérité, elle retrouve d'autres moments politiques, comme les Allemands qui occupent la France et qui assassinent la population juive de Lyon, de la Croix-Rousse. Alors elle va en zigzag dans les expériences fragmentaires et associatives. Et j'adore ce style de raconter une histoire d'une manière pas linéaire, mais associativement. Alors j'ai raconté cette histoire d'une jeune femme qui ne trouve rien, quoi. C'est un peu zen bouddhiste. Le chemin est le but, on dit.
J'ai encore marché toute la journée sous le soleil qui tape très dur. Lyon est vide. Tout vole est clos. C'est les vacances. Il ne reste ici que les vieillards et les travailleurs immigrés. Difficile d'imaginer cette même ville animée, vivante au travail en plein été. Les réunions, les discussions sans fin, les salles pleines, enfumées, et dégoulinante de sueur que décrit Flora. Je marche et je n'ai pas l'impression d'avancer. La place des terreaux que Flora voyait de sa fenêtre de l'hôtel de Milan est une place comme toutes les places dans une grande ville comme toutes les autres. L'hôtel est devenu un petit cinéma où passent des films carrettés.
L'histoire de l'Allemagne et votre propre histoire, vous vous y êtes confronté, vous aussi, en retournant tourner 4 films en Allemagne de l'Est après la chute du mur de Berlin, en Thuringe, là où vous êtes né, où vous avez vécu vos premières années. Il y a notamment ce film bouleversant qui s'appelle Ombre de la mémoire, où avec votre fille et votre mère, vous interrogez votre mère sur son passé nazi, et comment, à partir de ce qu'elle vous raconte, toute une partie de l'Allemagne a pu croire sincèrement au national-socialisme. Est-ce qu'il fallait ce temps-là pour affronter cette histoire? Parce que vous partagez en cela les préoccupations de toute votre génération, hein, qu'ont fait nos parents pendant la guerre et comment ont-ils pu être nazis?
Oui, ma mère avait déjà 86 ans et ma fille 17 ans. Et j'ai tourné le film comme le 4e film et j'ai kidnappé ma mère de son Düsseldorf où elle vivait avec mon père, mais... Je voulais qu'elle sera seule, je voulais qu'elle parte seule. Et dans le village où elle n'avait plus jamais été, elle, même après la réunification, elle ne voulait pas y aller. Parce qu'elle avait très mauvaise conscience qu'elle, pendant ce temps-là, elle avait cru au national-socialisme. Je l'ai convaincue et ma mère était toujours ménagère et mère de 6 enfants et elle n'exerçait pas une profession. Elle voulait, mais elle ne pouvait pas. Et elle était une femme très intelligente, avec une très grande instruction, mais qui n'était jamais dans la vie extérieure. Alors elle est allée avec moi et ma fille, et elle s'est confrontée avec cette maison qui est toujours un orphelinat, mais aussi un orphelinat des enfants qui ont été pris par la force, des parents qui voulaient aller dans l'Ouest et des choses comme ça. Alors cette maison n'a une histoire pas très propre après. Mais elle, ça appartenait à sa mère, ma grand-mère, que j'ai beaucoup aimée. Alors ma mère est allée dans cette maison et dans ce village et elle s'est confrontée avec les 12 années de 1933 jusqu'au 1945 où elle croyait en cela. Après, elle n'y croyait plus. Mais je voulais une femme naïve, intelligente, mais naïve, qui croyait en cela. Mais qui, en vérité, était une protestante très croyante et très pour aider aux autres et tout cela. Et je trouvais au montage, qui était très difficile, que ma fille, souvent, était beaucoup meilleure que moi et je me suis coupée out. Et j'ai laissé plus de la place à ma fille. Et ma mère a dû subir toutes les contradictions et toutes les remords qu'elle avait. Et elle dit « Je me sens coupable parce que je croyais en cela ». La phrase clé est « Moi aussi, je ne savais rien, mais j'aurais pu savoir quelque chose et je n'ai pas essayé de savoir. » Et ça, c'est ma culpabilité. Et moi, je trouvais ça, c'est moi maintenant qui parle, je trouvais cette phrase la plus importante parce que des gens qui ont dit « Je ne savais rien, je ne savais rien », on les a dans tous les films. Et toujours, on a des personnes qui disent, dans Claude Lanzmann, partout, on a des personnes qui disent « Je ne savais rien et c'est pour ça que je ne suis pas coupable ». Mais ma mère, dans toute sa naïveté, elle dit « Je ne savais rien, mais j'aurais dû essayer de savoir ». Et elle utilise ce qu'il faut. Il faut le dire avant le film, il faut le dire clairement qu'elle utilise des mots qui ne sont pas corrects du tout, qui sont très mal vus, bien sûr. Elle utilise, par exemple, le terme « sans-juif ». Et bien sûr, on ne peut pas dire « sans-juif » parce que c'est un terme de national-socialisme, mais elle ne savait pas que qu'on ne peut pas dire cela. Mais je n'ai pas coupé toutes ces contradictions, je les laissais dedans, parce que c'est ça le grand pont entre se sentir coupable ou suivre un mouvement, ou se laisser le même problème qu'on a aujourd'hui. Si on se laisse aller, si on ne fait pas attention, si on va avec les magiciens de la droite ou des séducteurs de l'extrême droite, etc.
Merci beaucoup, Claudia Fanalevel.
Merci à vous.
La rétrospective Claudia von Alemann, l'intime et politique, c'est au cinéma du réel jusqu'au 31 mars. Et si vous voulez la rencontrer, il y aura notamment demain à 17h30 au Centre Pompidou une discussion avec elle, sa consœur et amie, la cinéaste Danielle Yegui et sa monteuse Monique Darton. Ce sera après la projection du beau Nuit Claire. Quant à la compétition du cinéma du réel, Sandra Onana nous en rendra compte la semaine prochaine dans sa chronique. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec d'abord quelques autres films en salle cette semaine.
Do re mi fa sol la si do si la so fa mi re do.
你啥嘴啊？ 来把这过暑假多好啊， 可以去照相了。
I za świat za nimi polecieć.
Poleciałbym z tobą.
A niech szczekają.
Tu powiadają o niej, że łasa na chłopaku.
J'en ai marre de parler de ça. J'en ai marre que mon travail soit envahi par ça.
On s'est trompé, toi et moi, sur notre histoire. On s'est trompé sur ce qui nous unissait.
Depuis le début, voilà.
Moi, j'aime pas la vie. Ça me ferait plaisir de la donner pour une bonne cause. C'est la première fois que je veux vraiment quelque chose.
On se croirait dans Harry Potter à l'école des sorciers, c'est incroyable.
Aquis!
Datif L'Oréal ou ablatif L'Oréal.
Vous êtes en train de tricher?
Tout ça parce que vous avez la flemme de nous faire cours.
Ma vision des cours, elle a énormément changé.
Je suis déterminé, je suis motivé, je suis concentré.
Sur vos écrans depuis ce mercredi, Les Amours Impossibles dans la très homophobe société chinoise d'une jeune fille de 15 ans pour une jeune coréenne à peine plus âgée. C'est le très délicat Blue Summer, premier film très prometteur de la chinoise Jian Geng, manifestement sous forte influence ouxiaoxienne période Millennium Mambo. Les désirs d'émancipation contrariés d'une jeune femme mariée contre son gré à un riche veuf et propriétaire terrien dans un village polonais du 19e siècle, c'est la jeune fille et les paysans, nouvelle application au réel de la technique de la rotoscopie, qui consiste à peindre sur des images tournées en réel par les britannico-polonais Deka et Hugh Welshman, à qui on devait déjà la passion Van Gogh il y a 7 ans. On s'avoue toujours pas convaincu par le procédé. Une caméra qui demande des comptes, quitte à mettre le pied dans la porte, c'est Une famille, ou le cinéma selon Christine Angot, qui ose tout, avec une forme disruptive, mais qui prouve tout de même qu'on filme toujours mieux celles et ceux qu'on aime et écoute. Une jeune vampire qui répugne à sacrifier des vies à son appétit et tombe un jour sur un jeune suicidaire prêt à étancher sa soif. Ces vampires humanistes cherchent suicidaire consentant, tentative québécoise de comédie horrifique croisée avec le teen movie Splinétique, un premier film signé Ariane Louis XVI. Teen movie toujours en milieu scolaire avec une classe de cancre invitée sur un malentendu à participer à un championnat du monde de latiniste. C'est Bis Repetita, premier film là encore d'Émilie Noblet avec un prix d'honneur pour Louise Bourgoin en professeur particulier irresponsable. Et puis enfin, on ne quitte pas le lycée avec une classe de terminale de Drancy qui affiche 100% de réussite au bac. Comment font-ils? Réponse dans Le Monde est à eux, un documentaire signé Jérémy Fontagneux, le professeur responsable de cette méthode qui associe parents d'élèves et professeurs. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et puis il y a encore ce film qu'on avait découvert dans la sélection Acide au Festival de Cannes l'an dernier, Laissez-moi, premier long métrage d'un jeune cinéaste suisse, Maxime Rapa. Il y suit les allers-retours d'une femme, la cinquantaine, qui en pleine exerce la profession de couturière et s'occupe de son fils handicapé, et en montagne, où elle grimpe une fois par semaine, rencontre des hommes pour des amours sans lendemain. Un très beau film qui arrive par la composition des images et la mise en scène à dramatiser une histoire de presque rien, où la routine rassurante mais émolliente se retrouve mise en danger par ce dérangement considérable que peut être le plaisir, voire l'amour, le tout porté par cette grande actrice à voix qu'est Jeanne Balibar, capable de transcender tout dialogue par ses embardés fantasques. Maxime Rapa.
Vous avez raison, c'est un merveilleux environnement.
Vous avez une drôle de façon de vous exprimer.
Ah oui, vous trouvez?
J'aime bien.
J'ai envie de marcher par vous.
L'écriture du scénario, elle était assez précise dans les intentions. Et pour autant, j'ai une écriture qui est assez sèche. Et j'avais vraiment envie et besoin d'une actrice qui puisse transcender le texte, tout en restant fidèle à ce que j'avais imaginé, mais en emportant les choses un peu plus loin et vraiment en donnant vie à ce personnage qui est joué dans la retenue et aussi dans quelque chose de plus expressif qu'il fallait vraiment arriver à mettre en place. Et Jeanne Balibar est parfaite là-dedans, je trouve.
Vous auriez tourné dans les années 70, ça aurait pu être une autre grande actrice à voix, ça aurait pu être Delphine Seyrig. Le dérèglement qui se produit dans le film n'est pas très loin de celui qui affecte Jeanne Dielman dans le film de Chantal Akerman. Est-ce que c'est un film auquel vous avez pensé consciemment, ou est-ce que vous vous êtes rendu compte tout d'un coup que c'était un peu le fantôme caché derrière votre écriture?
Le film de Chantal Akerman, je l'ai découvert assez tard, et il a été très très important pour moi. J'ai d'ailleurs fait... une petite thèse là-dessus où j'avais rencontré la réalisatrice chez elle à Paris. Et je pense que c'est à la fois conscient et inconscient, parce que, par exemple, la lecture des lettres, j'ai choisi la même couleur du papier. Le tablier de Claudine, quand elle coud, il peut faire penser au tablier de Jeanne Dillemant. Voilà, c'est plein de petits aspects comme ça, le côté répétitif. Pour autant, j'ai pas voulu coller à ça, mais c'est sûr que quand un film vous trouble et vous marque à ce point-là, forcément, quand on fait soi-même un film, j'imagine qu'il y a quelque chose qui ressort. Delphine Seyrig, Jeanne Balibar, il y a quand même... on peut faire des liens, c'est sûr.
Le film ne se passe pas dans les années 70, il se passe à la fin des années 90. C'est même daté très précisément, 1997. Vous en avez besoin pour une raison dramaturgique. Il y a Lady Diana, on verra comment pour les spectateurs qui iront voir le film. Est-ce qu'il y avait aussi l'envie de filmer cette période-là ?
Bah, je pense que j'ai choisi cette époque pour plusieurs raisons. J'imagine que déjà, comme c'est la période à laquelle j'ai grandi, il y a quelque chose qui m'inspire de manière inconsciente là-dedans. C'est aussi un choix esthétique parce que je trouve que les voitures, les costumes, les couleurs, il y a quelque chose qui me touche plus dans cette période-là que dans la période actuelle. Et puis, le point le plus important, c'était vraiment de développer une histoire d'amour qui se fasse sans téléphone portable, quoi. Quelque chose de romanesque où on prend le train pour se voir, où on s'écrit des lettres. Et pour autant, j'ai pas voulu pointer la période de manière précise. J'ai plutôt essayé de travailler sur quelque chose d'atemporel en puisant dans les décors ou les costumes des références qui courent des années 50 à la fin des années 90.
Fermez les volets et ne plus changer l'eau des fleurs. Oubliez qui tu étais, ne plus jamais avoir peur. Se dire qu'on n'était pas.
Laissez-moi de Maxime Rapa, et lui aussi, sorti en salle ce mercredi. Quelques mots encore pour vous annoncer l'ouverture des candidatures pour participer à la 10e édition déjà des prix cinéma des étudiants France Culture en partenariat avec Sens Critique et l'Acide. Les films sélectionnés cette année sont en catégorie documentaire Notre Corps de Claire Simon, Jeunesse, Le Printemps de Wang Bing et Le Vrai du Faux d'Armel Ostiou. En catégorie fiction, La Chimère d'Alice Rohrwacker, Le Théorème de Marguerite d'Anna Novion et Mambar Pierrette de Rosine Bacam, et pour le coup de cœur Acide France Culture, Pierre Feuille Pistolet de Maciek Amela et How to Save a Dead Friend de Marussia Siroeshkovskaya. Pour visionner depuis chez vous les 8 films présélectionnés, rencontrer les 8 réalisateurs en ligne, voter et décerner vos prix au Festival de Cannes, il suffit d'être étudiant et de s'inscrire avant le 7 avril sur franceculture.fr. Si vous êtes parisien, rendez-vous demain à 11h pour une séance exceptionnelle en soutien au cinéma argentin attaqué de front par le président populiste Javier Milei. La projection de l'étonnant documentaire El Castillo sera suivie d'un débat avec son réalisateur Martin Benchimol et le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma Marcos Uzal. Nous reviendrons sur la question samedi prochain dans Plan Large. À la Cinémathèque française, on signale aussi du 27 mars au 10 avril une rétrospective sur les travestis au cinéma, une rétrospective concoctée par Noël Herpe à l'occasion du livre Sur la question qu'il vient de publier chez Capricci. Il nous en parlera, Noël Herpe, le 13 avril dans Plan Large, en direct et en public du Festival du Livre de Paris. Côté festival, c'est depuis hier et jusqu'au 1er avril, sans blague, la 33e édition du Festival du cinéma espagnol de Nantes avec Victor Hérissé en invité d'honneur. Il y donnera une masterclass jeudi prochain. Et puis on annonce enfin de demain au 26 mars le printemps du cinéma. Tous les films sont à 5 euros la séance dans les cinémas de toute la France. Profitez-en. Ceci annoncé, il est temps d'arroser tout cela de quelques verres de saké.
Majima-san, nomou yo.
Nomonderu yo, Koka.
Motto sa. Nome, nome tokudai. Mou oshimai janai ka.
Dakedo, hoshii na, shimechan no koko.
Shou ga nai yo.
Demo sekkoku na, Majiko-san.
Yoshina yo. Omoikiri wari zo tokudai. Nome, nome propera.
Majiko-san mo nomi yo.
ちょうど待った。少し回ってきたよ、うち。
いいから、少し開けな
よ。いいよ。特攻隊には分かんないよ。 ハムレットの気持ち。飲むか飲むまいか、問題なんだこれが。おいプロペラ前島くん。
なんだ
お前は古いぞ。目の色変えて麻雀ばっかりして。教えてやろうか、いいこと。
何？
新しいってことはね、いいかい？いつまで経っても古くならないってことなんだ。難しいよ、これ。
Boire ou ne pas boire, telle est la question, se demande dans un bar la très extravertie Mariko, une des sœurs Munakata qui donne leur titre à ce film de Yasujirō Ozu en 1950. C'est un film inédit en France et 120 ans après sa naissance, 60 ans après sa mort, c'est toujours un bonheur de découvrir encore des inédits du grand cinéaste japonais de la famille et du temps qui passe. Le film figure dans un coffret Blu-ray de 6 films qui comporte encore 2 autres inédits, Femmes et voyous et Une femme dans le vent, le tout avec la grande actrice Kinuyo Tanaka, dont on avait chanté dans Plan Large les talents de cinéaste elle-même. Qu'est-ce que ces films vous ont appris de plus sur le cinéma d'Ozu, Charlotte Garçon?
Alors d'abord, j'espère que tout film nous apprend au moins autant sur la question de boire ou ne pas boire que sur un cinéaste. Mais en effet, premier choc, dans ce coffret de rareté et d'inédit, on y voit combien le génie plastique d'Ozu, la précision de ses cadres, le goût qu'il développe très tôt pour les plans face caméra de visages qui s'impriment de manière marquante pour des champs contre champs filmés comme des duels, et bien combien ce style très reconnaissable, qu'on a désormais tendance à prendre pour un parangon de japonéité, combien il s'ancre d'abord dans la cinéphilie très occidentale de Yasujirō Ozu. Dans Femmes et voyous, qui est tourné en 1933, mais muet puisque son cinéma va le rester jusqu'en 1942, on est surtout frappé par la splendeur photographique. On a l'impression que Ozu a entièrement absorbé les films de gangsters américains de l'époque, en particulier le premier d'entre eux, Splendide les nuits de Chicago, de l'esthète Joseph von Sternberg, et qu'il en a tiré tout le suc photographique, de la gestuelle aux yeux maquillés de certains hommes. D'ailleurs, ces voyous vivent dans un univers anglo-saxons, ils vont au boxing gym, le club de boxe, où on voit un écriteau qui dit « The manly art of self-defense ». Et tous les objets du quotidien dans ce film sont rutilants de modernité américaine ou anglaise ou allemande. On a des pendules synchrones, des machines à écrire Remington dans le bureau où travaille Tokiko, joué par Kinuyo Tanaka. Un personnage à double facette, puisqu'elle est dactylo le jour et fille de la pègre la nuit. L'univers des gangsters est en fait prétexte à une dramaturgie amoureuse qui s'appuie sur ces textures visuelles. Les peaux, les objets, les accessoires, les vêtements, comme les longs gants de cuir noir que porte Tokiko avec sa robe de satin blanc. Voilà, c'est l'un de ces petits séismes visuels du film qui les multiplient. C'est-à-dire qu'il y a des événements comme ça, plastiques, qui écrasent le récit d'une certaine façon, mais qui creusent la complexité des relations entre les personnages. Alors, ce qui frappe dans Femmes et voyous, c'est la beauté de chacun des corps et des visages, qui n'est jamais gratuite puisqu'elle capte notre attention pour faire advenir ensuite des affects. Et à la fin, même l'objet le plus trivial peut émouvoir, comme ces pelotes de laine déroulées partout dans l'intérieur en vrac de Tokiko et de son amant gangster, signe que la jeune femme a tenté en vain de se mettre à lui tricoter des chaussettes, c'est-à-dire à changer de vie, à devenir une femme au foyer en croyant que cette vertu, ou en tout cas cette soumission, la rendrait aussi désirable que la jeune fille rangée dont s'est entiché l'amant. Et en un travelling, à la fin, Ozu filme les restes de cette laine répandue comme une promesse heureusement abandonnée d'idéal petit bourgeois. L'important dans ces films, qui sont souvent des mélodrames soucieux de ne pas verser dans le sentimentalisme, on est à la limite avec Une femme dans le vent, où Tanaka est une mère qui va être amenée à se prostituer pour payer la note d'hôpital de son fils, et bien l'important, donc, c'est pas tellement de savoir si on se range ou si on se rebelle, mais plutôt comment ce qu'on utilise comme carburant vital, comment le désir peut rester quelque chose comme un élan, comment il peut faire avancer, comment il peut même enivrer sans devenir destructeur. Ce qui nous ramène d'ailleurs à la très sérieuse question quasi shakespearienne de Mariko dans Les Sœurs Munakata, boire ou ne pas boire. Ce film, vraiment merveilleux, s'ouvre bizarrement en plein cours de médecine à l'université. Un professeur parle à ses étudiants des facteurs aggravants du cancer, mais il dit « j'ai un ami qui boit du whisky tout le temps et il est loin d'être encore mort ». Cet ami, c'est le père des sœurs Munakata, joué par le génial comédien Shishu Ryu, le père dans quasiment tous les films d'Ozu. Et ce magnifique vieillard, en fait, sait très bien qu'il n'en a plus pour longtemps. Il dit « tu peux vendre la maison à Tokyo, je n'y retournerai pas, je ne vais pas m'éterniser ». Et puis il se reverse un petit peu de saké. C'est vraiment son dernier printemps, hein, ça pourrait être le titre du film, mais bien sûr c'est aussi celui d'un Japon traditionnel que l'américanisation de l'après-guerre a sévèrement ringardisé. Alors on a donc les deux sœurs, l'aînée qui porte le kimono, qui s'est mariée avant-guerre de manière arrangée et qui, ma foi, vit cette chose avec fatalité, avec un mari chauve devenu alcoolique, alors que sa jeune sœur Mariko, vêtue à l'occidentale, décide de mettre un grand coup de balai dans l'ancien monde, comme dans le ménage sinistre de sa sœur avec qui elle vit encore. Et ce qu'il y a de vraiment magnifique, c'est que pour faire ça, en fait, elle va aller puiser dans le journal intime de jeunesse de sa sœur, donc elle va puiser en fait dans le passé de sa sœur et retrouver un amant et essayer de lui faire revivre une nouvelle histoire d'amour. Seulement, cette nouveauté qu'elle veut apporter chez sa sœur Setsuko, eh bien, sa sœur a une réponse. Elle dit « mais la nouveauté, c'est ce qui traverse le temps sans vieillir ». Cette phrase laisse la jeune fille moderne d'abord incrédule, mais elle sent bien qu'elle pourra s'y retrouver. Alors ce rapport entre conservatisme et élan moderniste définit évidemment le cinéma d'Ozu, qui est un cinéma entre l'Est et l'Ouest, un cinéma qui combine les deux, qui les met en tension à l'intérieur d'un même plan, qui charge ses intérieurs traditionnels d'affect familial avant de les filmer vides, aérés, silencieux. De tous les visages d'actrices, celui de Kinuyo Tanaka incarne peut-être à lui seul cette montée émotionnelle suivie d'un ressac, cette météo intérieure d'une douceur violente qui, elle aussi, traverse le temps sans vieillir.
Merci Charlotte Garçon. Le coffret Ozu, 6 films rares ou inédits avec un livret de 80 pages signé Pascal Alex Vincent, c'est chez Carlotta Film. Carlotta Film qui édite parallèlement le film que Wim Wenders avait consacré en 1985 à son maître nippon Tokyo Ga. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Élise Leu et Marie-Claire Oumabadi. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.